me ramène à mon point de départ, à savoir l'actualité du problème de l'histoire juive vue par les Grecs pour les débats actuels sur l'appartenance, l'allégeance et l'identité juive.
Je remercie vivement notre ami Joseph Nélez Modrzejewski de cette très importante communication. Il est vrai que sa communication déborde du simple problème de la façon où les historiens, à un certain moment de leur activité littéraire, ont perçu les événements de l'histoire juive. Il est clair qu'à la lumière de textes que vous avez cités, il s'agit pas simplement d'une interprétation de l'histoire juive, mais d'une interprétation de l'être juif, de l'identité juive. Il y a manifestement une confrontation des deux cultures. Maintenant, j'ai une hypothèse, je me demande dans quelle mesure vous parlez des Grecs. Ça, c'était une question qui a l'air un peu trop érudit, mais c'est une question fondamentale pour moi. Je vois, à la lumière de certains écrits, un élément fondamental. Les Grecs n'ont jamais connu l'existence du peuple juif, et c'est seulement après l'expédition d'Alexandre le Grand qu'on a des contacts réguliers, qu'on a des sources littéraires où la Judée et les Juifs sont connus. Or, à cette époque, me semble-t-il, la Grèce n'existe plus comme entité culturelle autonome. Il y a un empire macédonien, les officiers macédoniens épousent des Françaises asiatiques, et il y a maintenant une civilisation hellénistique qui, elle, n'est pas peut-être la vieille civilisation hellénique, mais qui est aussi férue d'orientalisme, qui veut une synthèse de toutes les cultures. Et peut-être, je me pose la question suivante, il n'y a pas le passage de l'admiration à l'ambiguïté, de l'ambiguïté à l'hostilité, ne serait peut-être le problème de la déception face au rejet par les Juifs de cette synthèse culturelle. Voilà donc en quelque sorte la question. Il n'y a pas ici une sorte de frustration devant l'échec d'un projet, le projet qui serait celui du premier livre des Maccabées, en quelque sorte, de former un peuple à partir de tout le peuple. Est-ce que vous croyez que ce projet a vraiment existé ou il s'agit simplement d'une spéculation littéraire de l'auteur de Maccabée? Je ne sais pas si c'est une question ou ce sont plusieurs questions, mais enfin, il me semble que c'est un problème fondamental.
Oui, c'est un problème effectivement très intéressant. La question est tout à fait pertinente. Tout cela serait très beau s'il y avait eu cette synthèse dont avaient rêvé les auteurs allemands d'abord et puis les auteurs du 19e siècle. C'est une conception qui est aujourd'hui dépassée. La conception de la civilisation hellénistique qui aurait réuni en une synthèse des éléments, les uns prolongeant le passé de la cité grecque, les autres perpétuant l'héritage de l'Orient, l'hypothèse de Droysen et de ses successeurs. On n'en est plus là. Aujourd'hui, les historiens sont bien d'accord pour considérer l'époque hellénistique, qui est la nôtre, qui était le cadre chronologique de cette causerie, non pas comme une synthèse, mais comme une juxtaposition, superposition de deux cultures qui gardent chacune, tout en évoluant, son identité. La culture hellénistique est nouvelle, mais elle reste grecque, dans sa partie grecque. Il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de mélange dans la langue. Il n'y a pas de mélange dans la religion. On avait cru que dans la langue, c'est très net et très facile à constater. Il n'y a pas d'emprunt fait à l'égyptien ou aux langues orientales dans la koiné grecque d'époque hellénistique. Plutôt que de désigner par un nom barbare une réalité nouvelle, une céréale égyptienne par exemple, je pense à quelque chose de très précis, les Grecs préfèrent déterrer dans leur trésor linguistique des mots depuis longtemps oubliés. Ils vont chercher dans Homère des mots grecs anciens pour les faire revivre, tout sauf un emprunt, n'est-ce pas, à la langue du barbare conquis. Alors, la langue, la société, l'économie de conception économique, une économie grecque fondée sur l'argent, l'économie du risque, une économie traditionnelle qui est celle de l'Orient, de l'Égypte ou du Proche-Orient. Et donc, pas de synthèse. Et c'est bien volontairement, avec toute la conscience qui s'imposait, que je choisis des textes qui représentent un point de vue grec et non pas syncrétiste. Et vous?
Bien, monsieur le docteur France.
Je partirai de votre conclusion, à savoir qu'il est impossible à 100%, avec un grand point d'interrogation.
Et effectivement, c'est ce qu'en savent les penseurs, lui, c'est ce que j'essaie de répéter mon maître de l'importance. Un juif ne veut pas à 100% devenir grec, latin, n'importe quoi. Donc à partir de ce que vous mettez en point d'interrogation, que je reprendrai à mon compte en tant que juif, qu'un juif ne peut pas être à 100% grec, je sais pas, je voudrais vous poser deux questions. J'ai été frappé lorsque vous avez cité que même lorsqu'il s'agit d'admiration, les choses pour lesquelles on admire les juifs sont fausses. Ça me paraît extrêmement important.
Mal interprété.
Lorsque, par exemple, vous citez, vous bien noté, Théophraste, ici d'Aristote, qui parle de peuple, de philosophe, etc., regardant les étoiles auxquelles il y aura un culte, ça ne peut que faire frémir les juifs qui sont dans cette salle. Parce que cela est tout à fait étranger à la pensée. Et il y a donc, lorsque les points d'admiration de la part des Grecs du Juif ne correspondent pas à des choses qui sont exactes pour les Grecs. Alors, il me semble qu'il y a une grande ignorance de la part des Grecs vis-à-vis de ce que représente la pensée. Et la question vous pose donc la suivante. Est-ce que cela ne s'attribue qu'à ce qu'on peut appeler noblement l'impérialisme grec, c'est-à-dire le désir d'universalisme grec, l'impérialisme intellectuel, qui fait que les Grecs acceptent tous les autres. Comme vous l'avez fait remarquer, au départ, il n'y a pas de la part des Grecs d'intention homicide, de désir de persécuter le peuple juif physiquement. Ce n'est que dans la mesure où les Juifs se sont différents des autres qu'il y a conduit. Les Grecs, ça ressort ce que vous avez dit, sont tout prêts à accepter les autres acceptent la Grèce avec tout ce qu'elle représente. Est-ce que véritablement, il s'agit donc uniquement d'un refus d'accepter que les Juifs soient autres, ou est-ce que ça n'irait pas plus loin? Est-ce qu'il n'y aurait pas une impossibilité de la part de la pensée grecque de comprendre la spécificité de la pensée juive? Puisque si l'on va aussi loin que des penseurs postérieurs à l'époque chrétienne, comme Plotin, qui est quelqu'un qui vit dans un monde où le monde juif est déjà, le monde juif intellectuel est déjà beaucoup plus familier, il ne peut pas dire qu'il dit très nettement « je ne comprends pas ce que les juifs entendent par le son de
travail. » Je vous remercie de cette question. Vous êtes trop dur pour Théophraste. Vous êtes trop dur. Il y a de sa part un intérêt très, très amical au départ
pour les juifs et le judaïsme, quelle que soit son ignorance. Les idées d'un auteur grec à cette époque ne peuvent pas être mesurées à l'étalon de la rectitude talmudique qui ne s'applique pas ici. Quand vous parlez de Théophraste, je pensais à un auteur juif de langue grecque, l'auteur qui se donne pour grec, mais qui est juif, c'est absolument certain à prouver, et qui prend le nom d'Aristée, écrivant une lettre à son ami Philocrate, cette lettre de pseudo-Aristée qui est le récit de la traduction de la Bible par les Septante, la traduction de la Bible en grec. Cet homme pense que Dieu, après tout, ne diffère pas tellement de Zeus, qu'il y a, il n'y a pas d'incompatibilité philosophique entre la conception juive de la divinité et la conception grecque. Il se branche ici sur un courant monothéiste qui avait séduit la pensée grecque pendant très longtemps et qui remonte beaucoup plus haut. Jean-Pierre Vernant en parlait il y a 3 ans dans sa leçon inaugurale au Collège de France. Alors là, les gens voyaient les choses un peu différemment à cette époque. Ceci pour Théophraste, parce que voyez-vous, il faisait un effort, mais il était tout simplement insuffisamment informé. Maintenant, refus grec ou refus juif? Là aussi, il faut voir les choses de deux côtés. Je me plaçais du côté grec, je continue à voir les choses du point de vue grec. Il y a incompatibilité, il y a impossibilité, elle est réciproque, elle ne se situe pas au niveau de représentation philosophique, car là, le compromis paraît possible. Nous avons le magnifique exemple de Philon, si juif et si grec à la fois. L'impossibilité est sur le plan social, sur le plan politique. C'est la participation à la cité. C'est là que le conflit se gonfle, c'est là qu'il grandit, n'est-ce pas? On ne peut pas être citoyen dans une cité grecque tout en ayant ce mode de vie. Voyez-vous? Et finalement, à l'époque hellénistique, on en restera à quelques pogroms. Le génocide ne viendra que beaucoup plus tard, mais toujours pour une raison politique. Et c'est bien réciproque.
Je ne comprends pas les Grecs ou les Pays, vous
n'avez
rien concédé, c'est ce que vous dites.
C'est pas cela.
Ils reprochaient qu'ils n'étaient pas, qu'ils se voulaient citoyens, que les Juifs se voulaient citoyens, mais qu'ils n'acceptaient pas le culte. Mais alors que les Grecs acceptent qu'ils
acceptent les Juifs tels qu'ils sont avec leur culte, à condition de réciprocité, qui est impossible pour les Juifs. C'est ça qui est dramatique, voyez-vous. C'est que ce ne sont pas les Grecs qui n'acceptent pas les cultes juifs, ce sont les Juifs qui n'acceptent pas les divinités grecques, les cultes poliades qui sont partis, qui font partie, qui sont soudés à la vie dans la cité. C'est comme si vous étiez français en refusant de voter, de, je sais pas, de payer votre ticket d'autobus ou de prendre la droite quand vous circulez en voiture. Les choses se présentent comme ça.
Les Juifs, ils participent à la cité, mais ils ne sont pas juifs. Ils ont donc fait quelque chose. Ils ont cédé sur un point. Ils se sont séparés de leurs mœurs, de leur ghetto. Ils sont devenus citoyens. À leur tour, les Grecs devraient accepter qu'ils gardent leur culte. Et c'est ça que je ne comprends
oui,
pas.
Oui,
alors, vous ne voulez que des concessions
d'un. Moi, je ne veux
non,
pas. Moi,
j'essaie
d'être le témoin aussi objectif que possible d'un passé qui nous est finalement très proche. Enfin, c'est pas exactement comme ça.
Ma brève question pourrait.
Je ne vous ai pas oublié, monsieur Germain.
Bon, ce que je voulais demander, c'est est-ce qu'à votre avis, le cas des Juifs ou des Judéens en Judée ou en Chine, un cas différent des autres étrangers, des autres métèques?
Oui, mais enfin, les Juifs ne sont rien d'exceptionnel, comme curiosité. Ils ne sont pas spécialement étonnants pour les Grecs. Les Grecs en ont vu d'autres. Ils ont vu les Égyptiens qui les ont stupéfaits. Les Grecs n'avaient rien de tellement impressionnant. Les Juifs n'avaient rien de spécialement impressionnant pour les Grecs. Ce qui est vrai des Grecs, aussi vrai des Perses.
Dans le cas de
l'intégration à la cité, c'est un problème qui se pose avec une acuité beaucoup plus forte en diaspora qu'en Judée. Dans la diaspora d'Égypte notamment, n'est-ce pas, où la cité elle-même n'est plus ce qu'elle était autrefois, elle a été étendue aux dimensions de toute la communauté hellénophone. Tous les hommes qui sont de langue et de culture grecque sont grecs, n'est-ce pas ? Ils vivent sur un système de valeurs qui perpétue les principes de la vie en société élaborés par la cité grecque en leur donnant une dimension quasi universelle. Et les Juifs sont intégrés dans cette communauté sur les plans social, sur les plans linguistiques, sur les plans culturels. La barrière passe par la religion. Les Grecs ne comprennent pas pourquoi ce Juif, qui parle la même langue, qui exerce les mêmes métiers, qui sont fonctionnaires du roi, qui vont devant les mêmes tribunaux faire trancher leurs affaires par les mêmes juges grecs, n'acceptent pas d'être leur hôte à la même table, n'acceptent pas que cette vie en société, cette vie en commun, ne soit pas scellée par une alliance matrimoniale. Puisque, eux, les ont... ce ne sont pas les Juifs qui ont fait les Grecs qui ont fait des concessions. Les Grecs ont accepté les Juifs au sein d'une société grecque élargie. Ils ne comprennent pas pourquoi les Juifs s'obstinent à garder quelque chose qui les sépare d'une société qui est la leur. Donc, plutôt que d'hostilité, il faudrait parler de malentendus qui prend des dimensions dramatiques. Je crois que mon ami le professeur Germain voulait dire quelque chose comme il est.
Mais j'avoue que je ferai les remarques qu'a fait justement le président à l'origine, c'est-à-dire que je crois aussi que le monde des cités grecques avait disparu à ce moment-là,
c'est et que
par conséquent,
on
était dans l'empire d'Alexandre et ce n'était plus évidemment la période de la Grèce classique des grands auteurs grecs.
Bien sûr que non.
Et par conséquent, il est difficile, mais je reconnais que quand on a passé sa vie à étudier la politique, on peut difficilement en sortir. Et l'optique des Grecs, telle qu'elle apparaît chez vous, c'est justement l'optique, disons, des occupants grecs de l'Égypte de Ptolémée.
Et Schneider va devoir passer ma vie, pas encore. Non, mais ce que vous dites, malheureusement, n'est pas exact, parce que la cité grecque n'est pas morte, ni à Chéronée, ni avec Alexandre. Elle existe toujours dans la Grèce ancienne, elle existe aussi dans le monde hellénistique. Et là, je viens de le dire déjà deux fois, je ne voudrais pas me répéter encore, ce qui subsiste, ce n'est pas le phénomène politique de la cité, hein, mais le mode de vie, le système des valeurs issues de la cité.
Oui, mais c'est quelque chose de différent. Parce qu'il n'y a pas que la cité, c'était un cadre peut-être politique, mais c'était aussi une éclosion quand même, à partir, disons, du début de la philosophie. Il y a eu en Grèce, à l'époque classique, 7e, 4e siècle, une véritable éclosion chrétienne que l'on ne connaît pas par la suite, avec l'évolue qui était différente. On est dans un monde qui n'est pas, si vous voulez, en réalité, au fond, le monde de la Grèce classique. Je crois que simplement, à souci de précision, c'est de dire justement l'identité juive, comme l'a dit justement le président, au fond, l'identité juive dans le monde hellénistique. Parce que, que venait faire Tacite, si vous voulez, les jumelages et Martial, dans la vue des Grecs, justement, et des Grecs pour ce qui est de l'histoire du. Là, j'avoue que j'ai été un peu étonné. D'autre part, pourquoi ne pas parler, par exemple, d'Apion
Et pourquoi alors, si on continue un petit peu, ne pas parler par exemple de l'empereur Julien? Vous me direz que je ne pas grec, mais puisque la cité peut-être. Voilà quelqu'un qui veut recréer l'hellénisme et qui, tout en voulant recréer l'hellénisme, est en fait extrêmement favorable aux juifs et a essayé de faire reconstruire le temple. Alors, il n'y a pas une antinomie peut-être aussi fondamentale que vous n'avez voulu marquer.
Je ne pas chercher à marquer des antinomies, je ne crois pas, je crois pas que l'auditoire est ainsi perçu cette causerie. Pourquoi pas parler d'Appion alors que pourquoi pas parler d'Appion pour une raison très simple. Appion est un auteur égyptien qui s'exprime en langue grecque. C'est pas un auteur grec. Et je mentionnais Manéthon au passage en indiquant une possible source d'inspiration, une source égyptienne. J'ai mentionné Tacite ou Juvenal parce qu'ils sont en prolongement d'un courant de pensée qui débute avec Hécate d'Abdère à la fin du IVe siècle. Je n'ai pas mentionné l'empereur Julien parce que ça m'aura amené beaucoup trop loin, n'est-ce pas? J'ai quand même essayé de parler d'une image grecque. Mais est-ce que vous dites que la cité grecque qui apparemment serait morte au moment où commence la rencontre entre les Juifs et les Grecs, moi je ne vois pas les choses comme ça du tout, n'est-ce pas? Le monde des cités est loin d'être mort, le monde des cités se perpétue à l'époque hellénistique, comme sous l'Empire romain, les choses évoluent bien sûr. Bah oui, mais ça c'est une conception qu'on avait de l'histoire grecque au début du 19e siècle. On pensait qu'après Chéronée, il n'y a plus de Grecs, n'est-ce pas? Il n'y a plus rien. Et que faites-vous alors de toutes les écoles philosophiques? Que faites-vous de l'art, de la littérature, de la culture grecque qui rayonne désormais à partir d'Alexandrie et non pas à partir d'Athènes? Enfin, ça c'est une conception restrictive de l'hellénisme que, personnellement, je ne partage pas. Je pense qu'il est tout à fait légitime de parler d'une image grecque du judaïsme quand on précise que la rencontre a eu lieu à un moment déterminé, n'est-ce pas, avec Alexandre, et on sait que cette image se fera dans les écrits d'auteurs grecs qui sont postérieurs à Alexandre, mais qui sont quand même le porteur, n'est-ce pas, de la culture grecque dans une nouvelle phase de développement.
Concernant les Juifs par rapport aux autres cités, vous vous attendez de la question de la religion juive par rapport aux autres religions,
oui.
Étant donné que les autres médias pouvaient être plus acceptables par les Grecs parce que leurs dieux pouvaient être intégrés dans le système des dieux de la cité grecque.
C'est pas leur dieu, c'est parce que les autres, non pas Métèques, mais les autres étrangers qui s'étaient trouvés dans les royaumes hellénistiques sous la domination grecque, désormais étendue au monde oriental, acceptaient leur mode de vie grec jusqu'au bout, avec toutes les conséquences. Ils acceptaient les divinités grecques. C'est les juifs qui n'acceptaient pas.
Et inversement, les Grecs acceptaient
les divinités de Métèques qui s'intégraient dans leur propre religion. Si vous voulez. Et que ce n'était pas la même chose à ce que vous dites, étant donné que ça remettrait de la grande cause leur propre religion. Non. Le refus vient du côté juif, il est normal. On ne peut pas imaginer les choses autrement. Les juifs cesseraient d'être juifs s'ils acceptaient les dieux des autres, s'ils renonçaient à ce qui fait la substance du judaïsme, le fondement même du judaïsme. Ils voulaient être grecs, mais non pas jusqu'au bout, n'est-ce pas? Alors, il y a un prix que l'on paye pour le maintien de son identité juive. Cette histoire a commencé il y a très longtemps, hein? Mais après, ça va continuer comme ça. On les fait plus ou moins. Vous savez, là, d'abord je ne parlerai pas de race en cette délicate matière. Il y a des problèmes de langue, de culture. Il y a un petit noyau qui veut préserver sa pureté grecque, très classique, très très classique, le corps civique d'Alexandrie, qui d'ailleurs se rétrécit constamment. Puis il y a des gens qui vivent à Alexandrie, qui sont alexandrins, sans avoir le droit de citer à Alexandrie. Et finalement, toute une bigarrure qui a permis à certains auteurs grecs de dire que Alexandrie n'est pas une vraie cité, que c'est une polypolis, une cité multiple. Il y a des auteurs grecs à qui les Grecs d'Alexandrie paraissent comme des barbares. Mais ça, c'est une vieille histoire encore, parce que les Grecs d'époque classique étaient capables de considérer une partie de leurs compatriotes comme des barbares. Thucydide dit que les Locriens occidentaux ou les Thessaliens ou les Acarnaniens relèvent d'un mode de vie barbare plutôt que de la culture grecque. Il dit que leur langue est inintelligible alors qu'il s'agit tout simplement d'un autre dialecte, autre que le latitionien, et du coup, il les accuse de manger de la viande crue. Voyez-vous, ce sont des choses qui se passent entre Grecs. Hein? Chacun a toujours son prochain qu'il méprise.
Question.
Dans votre conférence, vous avez présenté une image de Juifs comme étant tout à fait fidèle à sa religion. Est-ce qu'il n'y avait pas de phénomène de mariage mixte de Juifs qui tout de même acceptaient des dieux grecs? Et quelle était la réaction des Grecs ensuite? Est-ce que nous avons assez de documentation pour pouvoir en parler?
Oui. Très peu de mariage mixte. En Égypte, par exemple, dans cette magnifique diaspora d'Égypte qui, pendant trois siècles, a été le véritable centre du judaïsme hellénistique. On a été à un pas du schisme avec le sanctuaire de l'Ontopolis. À la vérité, il a été construit peut-être à un moment où le temple de Jérusalem, j'y faisais allusion tout à l'heure, étant souillé, n'est-ce pas? Bon. Alors, pendant ces trois siècles, on a un nombre assez grand de documents. On ne trouve pas un seul mariage mixte entre juifs et non-juifs dans l'Égypte hellénistique. Quelques cas très très douteux. Vous savez, c'est une affaire délicate, le mariage mixte, parce qu'on ne voit pas très bien. Les gens ne vous disent pas un tel juif épouse mademoiselle une telle qui n'est pas juive, n'est-ce pas? Vous avez des actes de mariage, entre grecs, vous avez des actes de mariage en grec et en égyptien. Vous n'avez pas un seul acte de mariage grec qui témoigne d'une union mixte entre grecs et égyptien. Vous avez trois actes de mariage en langue égyptienne, en démotique, qui attestent les unions mixtes entre égyptiens et grecs, mais ces grecs ne sont pas de vrais grecs, ce sont des grecs nés en Égypte, donc en fait ce sont des égyptiens hellénisants ou hellénisés qui, au moment du mariage, choisissent quand même la langue de leurs ancêtres. Alors, toute la question de mariage mixte est assez complexe, très délicate, et il n'y a pas ou presque pas de mariage mixte. Il y a des passages dans Philon, de spécialibus equibus, il y a des choses, oui, des cas peut-être dans ces élites alexandrines très hellénisées, ce n'est pas impossible. D'ailleurs, le couple auquel je faisais allusion, ce couple-là lui-même, à mon avis, il est parfaitement juif. Il est parfaitement juif tout en se comportant d'une façon très peu orthodoxe en matière de divorce. La jeune fille est peut-être issue d'un mariage mixte, mais son papa s'appelle Sambatayon ou Sambatayot, c'est un nom qui est dérivé du Shabbat, c'est quelqu'un qui observe le Shabbat. Plus tard, avec l'extension de l'observance du Shabbat dans l'Empire romain, n'importe qui peut s'appeler Sambation sans être juif, mais à ce moment-là, il est nécessaire qu'il soit juif, vous voyez. Je connais deux ou trois cas de mariage qui pourraient avoir été mixtes entre juifs hellénisés en Égypte, juifs et non-juifs, mais le phénomène avait très peu d'extension. Et quand les auteurs grecs disent ces juifs-là qui sont devenus comme nous ne veulent pas se marier avec nos filles, ils n'ont pas tort. Bien sûr.
Il n'y a pas de document qui parlerait des bons juifs, ceux qui acceptent d'être invités, qui participent, qui partagent, etc. Il y a ce genre de
discours. Oui, non, là, je ne vois. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Oui, oui.
Ça
parle
de bons juifs.
Bah, je. Oui.
La réaction allemande, par exemple, est différente quand Jakobka commençait à mettre le football.
Et tout à fait
votre jeu,
qui était joué dans votre tienne. Oui, c'est peut-être pas exactement comme ça. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Je ne peux pas vous donner une réponse bien précise. Aucun texte ne me vient à l'esprit. Le juif qui aura accepté le repas du grec ne serait pas nécessairement taxé de bon juif. Il serait bon grec. Il serait enfin tout à fait grec. Voyez-vous ? Le bon juif, c'est pas celui qui. Hein ? Alors, c'est le discours que j'imagine, M. Astellagi.
Oui, je voulais dire deux choses. Alors, dans le discours, il y a énuméré ces trois points. Ces trois points de la première phase, c'est plus sympathique, ensuite. Dans les documents de l'époque dont vous avez parlé, de ce à quoi nous assistons aujourd'hui, de cette formulation d'accusation assez paradoxale telle qu'on a dit longtemps.
Vous remercie de cette observation, je me sens précieuse. Oui, je crois que ce que vous dites à propos de Mahomet de Jupiter peut très heureusement être rapproché de ce que je disais de l'image grecque, la réaction grecque à un judaïsme attrayant, intéressant, mal compris, et qui passe de l'intérêt bienveillant très vite à la déception. N'est-ce pas ? Il y a l'élément déception qui est important, et qui est important et que j'intègre très, très volontiers en vous en remerciant dans mon propos. Alors maintenant, le roi Antiochos, là, vous savez, c'est une histoire qui me préoccupe beaucoup dans un esprit de justice et d'équité, parce que personne n'est innocent dans cette affaire. Le roi Antiochos n'était pas résolument anti-juif. Son idée n'était certainement pas de persécuter le judaïsme ou d'interdire les cultes. C'est un homme qui venait d'être battu en Égypte par son lointain cousin Ptolémée, qui a été battu au moment où il allait emporter une victoire. L'intervention romaine l'oblige à quitter l'Égypte. Il revient, il est furieux, il a besoin d'argent. Il a besoin d'argent, il est certain qu'il a pillé le temple, le trésor du temple. En revanche, il n'est pas du tout certain qu'il ait cherché à héléniser par force. Ceux qui ont voulu héléniser et qui ont dépassé la mesure, ce sont bien les grands prêtres, ce sont bien les juifs, n'est-ce pas? Ce sont bien les juifs. Alors, de là à conclure, comme le fait Bickerman, que des gens comme Jason et Ménélas sont responsables des édits interdisant le culte judaïque, là, on ne peut pas franchir ce seuil, on va trop loin. Il y a un délicat partage de responsabilités dans cette affaire qui est certainement important dans la mesure où elle nous montre qu'avec les tensions politiques dans le monde ambiant, les juifs apparaissent dans leur rôle de baromètre. Les juifs sont le baromètre des tensions du monde dans lequel ils vivent, un monde en crise, un monde, ce monde hellénistique qui ne fonctionne plus, la menace de l'intervention romaine qui se fait de plus en plus pesante, tous ces éléments convergent, c'est à ce moment-là que les juifs s'aperçoivent, du danger, et qu'ils prennent conscience du fait qu'ils vivent sur un mode dangereux. Le mode dangereux parce que le monde traverse une crise. Et là encore, c'est un sujet d'actualité pour nous. Maintenant, le monothéisme, impérialiste, etc. Là, il y a peut-être une chose, à dessein réduit la longueur de mon propos justement pour pouvoir plus librement discuter, voir les réactions de mon excellent public, pouvoir engager le débat. Il y a un élément qui me vient à l'esprit ici à propos du monothéisme, à propos du refus juif, et c'est le problème de l'hospitalité. L'hospitalité, les Grecs étaient très sensibles, c'est une vieille tradition grecque qui est présente dans le poème homérique, qui est à la base d'institutions aussi importantes que la proxénie, les traités entre cités grecques, etc. Alors, pour les Grecs, quelqu'un qui ne pratique pas l'hospitalité, supposant des liens réciproques, n'est-ce pas? Parce que c'est le système de don et contre-don qui fonde ces liens d'hospitalité. Pour les Grecs, quelqu'un qui ne pratique pas l'hospitalité sans réserve, sans restriction, relève de la barbarie. Le barbare sauvage, le cyclope, est un être par excellence inhospitalier. Le juif qui est reçu et qui met une limite à la pratique de l'hospitalité réciproque relève dans un sens d'une barbarie. Voyez-vous ? Là, il y a quelque chose, il y a un obstacle infranchissable. Ce Janssen, cet amour.
C'est-à-dire à la limite, est-ce qu'on pourrait dire, si vous ne serez pas trop de dire ?
Vous voyez ce que j'essaie de suggérer? Oui, vous avez entendu, aurait perçu dans cette irréductibilité religieuse en réalité une irréductibilité nationale.
Exactement, c'est ça. Là, nous sommes d'accord. Enfin, je pense qu'on peut l'interpréter ainsi. Et c'est là que nous sentons, n'est-ce pas, la permanence par le conflit, par les tensions. Mais c'est ce que vous venez de dire. Je crois que c'est comme ça. Tout en participant à la culture de l'autre, mais avec cette limite. Avec cette limite qui est à la fois une garantie de sauvegarde pour le judaïsme et source de conflit pour la... source de fracasserie, source de conflit pour la coexistence culturelle.
On retrouve ça dans la Tanaïm. Ils firent les deux une alliance. Ils firent une alliance, mais ils restèrent deux.
Eh oui.
Parce que quand on fait une alliance,
on est... Quand on fait une alliance, on reste deux. Oui, je pense. Oui, oui. Oui, oui. Ils sont les seuls. Dans tout l'Empire romain, ils sont les seuls à se soulever. Et ils sont les seuls à, finalement, à faire figure d'inassimilable, tout en étant très assimilés. Vous savez, c'est une vieille histoire. Hein. Il y en avait qui ne voulaient pas s'assimiler du tout, qui n'y trouvaient aucun intérêt. Oui, il y en avait d'autres, mais vous avez des Égyptiens. Il y a des Égyptiens qui sont traités d'analphabètes. Un tel n'a pas signé un papier, on a signé pour lui parce qu'il est agrammatos. Il ne sait pas lire et écrire. Puis on s'aperçoit que c'est un grand prêtre égyptien. Il n'est pas analphabète. Il connaît parfaitement l'écriture, infiniment plus difficile que l'écriture grecque. Son écriture égyptienne, hiéroglyphique ou hiératique, il refuse d'écrire en grec. On le traite d'analphabète. Celui-là est inassimilable parce qu'il ne veut pas, il refuse l'assimilation. En revanche, le juif est grec pour l'égyptien. Pour le barbare conquis par le grec, le juif est grec. Et la haine que les égyptiens, pas tous, mais enfin, disons, l'hostilité qui se manifeste à l'égard des juifs dans les milieux égyptiens, est dans une très large mesure une réaction du barbare conquis à la conquête, c'est-à-dire c'est une hostilité de l'égyptien pour les grecs. Mais il la cristallise sur les juifs, parce que les juifs, tout en étant grecs, est quand même un peu différent. Vous savez, c'est cette petite différence qui compte. L'assimilation, parce que les grecs, c'est le Kulturvolk. La culture est grecque. Les juifs ont toujours vécu du côté de la culture. La culture est grecque, les grecs, donc les juifs sont dans la culture. Ils vivent une vie grecque. Comme ils vivront plus tard une vie allemande en Allemagne au XIXe siècle, comme nous vivons une vie française en France.
Jusqu'à quel niveau arrivait-il à s'assimiler les juifs? Vous les gardez quand même une identité juive. Jusqu'à quelle responsabilité vous avez dans la cité? Est-ce qu'il restait en dehors de la cité ou bien est-ce qu'il dit qu'il avait les mêmes métiers, qu'ils travaillent ensemble, qu'il est jusqu'où?
Tout sauf l'essentiel, le mariage, la circoncision, le repos sabbatique. Oui, il y a des généraux, il y a Dositéos, fils de Drimilos, il y a des généraux grecs, des généraux juifs dans... et quand on passe de l'autre côté, on renie entièrement. Le neveu du philosophe Philon est un Romain, préfet d'Égypte, Tiberius Julius Alexandre. Il se paye un pogrom en Judée. C'est lui qui va assassiner des Juifs. C'est la rupture. Voyez-vous, où on conserve la limite, et c'est le conflit, n'est-ce pas, parce que c'est un amour incomplet, inachevé, ou alors on bascule, et c'est la rupture totale. Et c'est la négation du judaïsme. Oui. Oh, pas tous, les prêtres. Et pour cela, il leur fallait la permission très officielle du gouvernement ptolémaïque d'abord, et puis du gouvernement romain, du gouvernement provincial, les prêtres. Oui. Mais les Juifs sont, certainement ne sont pas le seul peuple à être circoncis dans l'Antiquité. Et quand, je ne sais plus qui, je crois bien c'est encore Tacite qui dit que les Juifs se font circoncire uniquement pour souligner leur altérité, c'est-à-dire pour faire leur râler les autres, pour faire pas comme les autres, c'est inutile. Il a certainement tort, il est de mauvaise foi, il devait savoir que d'autres peuples dans l'Antiquité pratiquaient la circoncision. Mais la circoncision juive frappe les païens, n'est-ce pas ? Elle les frappe parce qu'elle leur apparaît comme une volonté de séparation, comme une obstination. Les autres sont autres. Ces Égyptiens qui ne veulent pas écrire en grec sont absolument égyptiens. Mais les Juifs sont grecs. Alors on leur demande pourquoi vous ne l'êtes pas jusqu'au bout. J'en connais pas. Oui, le rabbinimage. Non, mais je parlais. Il y a peut-être un petit malentendu parce que je parlais surtout de la diaspora d'Égypte. Vous voyez, là, c'est un peu le pays où je vis. Hein? Alors la diaspora d'Égypte, ces gens me sont très proches, je me sens un peu comme, je ne vois pas des Juifs non assimilés. Il y a des gens qui arrivent, il y a certainement des gens qui arrivent de Palestine, hein, de Judée, mais ils vont être, les Griner, hein, mais ils vont être assimilés très vite, ils vont apprendre le grec en l'espace de 2 ou 3 ans, que dis-je, de 2 mois. Et tant qu'ils ne savent pas le grec, ils ne se manifestent pas. Mais leurs enfants seront super grecs. Eh oui.
Bien, je voulais remercier l'orateur de cette belle communication et, au nom de nous tous. Je vous rappelle donc notre...